Médien.
Médien. Podcast.
Médien. Podcast. Bienvenue à toutes et à tous. Avec ma femme d'aujourd'hui, on va parler sans langue de bois de ce que ça veut dire qu'être une femme dans la tech aujourd'hui et puis aussi de tous ces challenges et de toutes ces pressions qu'on peut se mettre parfois parce qu'on n'a pas forcément de rôle modèle. On y va pour les détails.
Média, Yasmine, femme d'aujourd'hui.
Sophia Rechem, bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être ma femme d'aujourd'hui. Comment ça va la Sophia ?
Merci à vous pour l'invitation. C'est un grand plaisir d'être là aujourd'hui parmi vous. Et plaisir est pour moi.
Alors, Sophia, vous êtes entre autres, et on va découvrir tout ça justement, mais vous êtes entre autres la fondatrice et l'ambassadrice de Women in AI Morocco. C'est bien ça ?
Exactement.
OK. Alors, d'abord, Women in AI Morocco, qu'est-ce que c'est exactement ?
Alors, Women in AI Morocco, c'est un chapitre national d'une organisation mondiale, Women in AI, qui œuvre pour la promotion de la présence et du rôle des femmes dans le secteur de l'IA. On est présent sur 150 pays, on compte 30 000 membres aujourd'hui. Et pour le cas du Maroc, donc j'ai fondé le chapitre il y a moins d'une année, en mai 2025, et avec beaucoup de conviction derrière. Et aujourd'hui, je suis contente de voir autour de moi 12 femmes sur le board, 300 femmes active members, et voilà, on a pu toucher aussi une audience de 3000 personnes, hommes et femmes, durant cette première année.
Alors, c'est magnifique. Alors, justement, j'aimerais bien comprendre un petit peu la genèse derrière, l'histoire derrière, cette envie d'ouvrir ce chapitre marocain de Women in AI. Qu'est-ce qui vous a poussé à vouloir lancer cette filiale au Maroc ?
Oui, c'est une très, très belle question. Merci, Yasmine. En fait, c'est un long chemin. J'étais toujours je portais toujours cette valeur que les femmes... Women support women. Mm. Le support entre femmes, c'est très, très important, surtout en milieu professionnel, aussi bien que la vie personnelle. Et là, si je reviens à la conviction derrière, c'est réellement mon expérience en tant que tech woman à la Silicon Valley. Donc, en 2017, j'ai été sélectionnée pour ce prestigieux programme et je suis partie à la Silicon Valley pendant 2 mois. Et là, j'ai vraiment mesuré, j'ai vu comment c'est vraiment... important d'avoir des femmes qui supportent les femmes. J'ai été supportée par des VP, par des C-level, des femmes en C-level, et c'est des leçons qui sont restées, et vraiment, ils m'ont donné des tips et des leçons qui sont restées avec moi toute ma vie. Mmh. Et donc, en rentrant au Maroc, c'était cette volonté de give back to the community et créer ce réseau de femmes marocaines. Et on a beaucoup de femmes brillantes et on a beaucoup de femmes expertes en IA. Mais malheureusement, ils sont peu visibles et ils ne sont pas connectés. Mmh. Donc, c'était mon objectif de créer cette plateforme qui va réunir les femmes, qui va les rendre visibles. Beaucoup, beaucoup de femmes, ils faisaient du travail excellent, mais ils n'étaient pas visibles. Et c'est à nous de leur donner des speaking opportunities par-ci, par-là, de les connecter avec l'écosystème. Et puis voilà, donc c'est un vrai push pour les femmes qui sont déjà sur le domaine, que ce soit les femmes au Maroc ou de la diaspora. Et on est aujourd'hui très, très heureuse de voir les impacts réels sur le terrain.
Alors, pendant que vous étiez en train d'expliquer l'histoire derrière, vous avez donné une date. Vous avez dit 2017, j'ai été sélectionnée pour un programme à la Silicon Valley. C'est bien ça, j'ai bien entendu.
Exactement.
OK. Et oui. En même temps, je me suis dit, voilà, donc en 2017, aux États-Unis, à la Silicon Valley, Sophia, justement, a découvert la puissance des femmes lorsqu'elles se soutiennent parce que vous avez bénéficié de l'apport et du soutien de femmes. Vous aviez travaillé pendant combien d'années déjà, avant 2017 ?
Donc, 16 ans.
16 ans, incroyable. Oui. Et au Maroc, mm-hmm. Est-ce que vous aviez, avant cette expérience en 2017, au Maroc, est-ce que vous aviez senti déjà, ou est-ce qu'au contraire, ce n'était pas présent ce soutien féminin, cette sororité ?
Si, donc on a toujours des initiatives qui supportent les femmes. Et je faisais aussi partie de beaucoup d'initiatives et d'associations, même avant le Tekwomen. Mais pourquoi j'avais mentionné le Tekwomen? Parce que le déclic que j'avais dans ma vie pour créer une initiative dans ce sens.
D'accord.
Donc, je faisais pas mal, donc même aux études parascolaires. Donc, c'est un long chemin, mais le vrai déclic pour vouloir créer une bonne valeur ajoutée, c'était là au Tekwomen.
Ok. Ça demande quoi comme engagement de votre part, justement, depuis juin 2025?
On s'engage coréen, parce que je suis très passionnée pour donner aux femmes et pour voir les femmes briller. Et pour voilà que dire, c'est pas de dire voilà, on veut que la femme soit là, mais pour que demain on dise cette femme-là, elle est brillante dans ce domaine, cette femme-là, elle fait beaucoup de choses, regardez les réalisations. Je veux qu'on s'affiche par mérite et par leadership et par performance. Donc c'est mon ambition de voir voilà les femmes ONIA briller au Maroc.
Alors à votre avis justement, qu'est-ce qui fait, vous avez dit on a au Maroc beaucoup de femmes expertes, beaucoup de femmes brillantes, mais malheureusement elles ne sont pas visibles. Qu'est-ce qui fait que les femmes ne sont pas visibles? Est-ce qu'on est en quelque sorte responsable nous-mêmes de notre manque de visibilité?
Oui, c'est une très bonne question Yasmine, effectivement. Généralement, il y a quelques freins d'héritage culturel. On a aussi le syndrome de l'imposteur qui est là des fois pour les femmes. Et là, malgré qu'on est très brillante, qu'on soit une chercheuse qui fait des exploits dans la recherche ou que ce soit une entrepreneur, on a toujours des freins, des fois de syndrome d'imposteur où on ne peut pas s'octroyer des opportunités un peu plus importantes. Et donc voilà, c'est un peu ça qu'on essaie de contourner. On essaie de donner empower women, leur donner la force pour influencer et pour transformer.
Absolument, absolument. Alors de quoi avons-nous besoin? Donc de quoi les femmes, et dans la tech en particulier, ont-elles besoin pour réclamer leur espace, pour to own their space, comme on dit en anglais?
Donc on a besoin de deux piliers principaux. L'accès aux ressources, c'est-à-dire par exemple l'IA, ce qui diffère aujourd'hui l'IA des autres domaines de la tech, c'est l'IA, c'est un domaine qui demande des ressources, l'accès à la data, des ressources en termes d'infrastructure. Donc notre rôle aussi, c'est de permettre aux femmes de se connecter avec un écosystème qui va leur permettre l'accès à ces ressources-là. Et aussi le deuxième pilier, c'est l'accès aux opportunités, que ce soit en termes de postes en leadership, que ce soit en termes de femmes qui ont des idées, l'accès à des investisseurs pour concrétiser leurs idées et devenir des entrepreneurs, en IA notamment. Donc voilà, ces deux volets-là sur lesquels on essaie d'agir et sur lesquels les femmes doivent aujourd'hui travailler pour atteindre de meilleurs postes et un meilleur impact en IA.
Alors, j'aimerais aussi comprendre un peu plus votre trajectoire, parce que vous avez eu d'abord une formation en ingénierie électrique, c'est bien ça, si je ne me trompe pas?
Exactement.
À l'époque, on ne parlait pas encore d'intelligence artificielle, on ne parlait pas d'IA, on ne parlait pas de tech, on parlait d'ingénierie. Comment vous avez fait évoluer vous-même votre parcours, votre formation, pour finalement continuer à être aligné avec le développement technologique du monde?
Oui, c'est une très bonne question. En fait, effectivement, je suis ingénieure réseau télécom de 2010 de l'INPT. Et après, j'avais beaucoup d'engouement à continuer dans la science, dans les domaines technologiques. C'est grâce aussi à mes parents qui ont nourri en moi depuis l'enfance cette envie d'apprendre plus, d'exceller dans ce qu'on fait. Et donc, j'ai continué mes études à travers une thèse doctorale qui a porté sur la partie efficacité énergétique des futurs réseaux mobiles de sixième génération. Et là aussi, donc, c'était en tant que chercheuse, c'était d'accompagner ce qui va se passer, d'être dans des projections futuristes. Et c'est là aussi que j'ai utilisé l'IA pour améliorer ces aspects de performance de réseau mobile. Et voilà, donc c'est un peu la recherche qui m'a permis de rester à jour par rapport aux tendances technologiques. C'est également les formations que je fais. C'est là que vous êtes obligé de rester à jour et d'avoir tous ces engouements qu'il faut pour la technologie et pour le futur de la tech et de l'IA.
Alors, ces jeunes que vous rencontrez aussi, parce que vous rencontrez des femmes, justement, mais j'imagine vous rencontrez aussi des plus jeunes. Quand on dit aujourd'hui un mindset tech, ça veut dire quoi ?
Un mindset tech, c'est de vraiment vouloir rester à jour. Aujourd'hui, même si on prend un exemple, je rencontre même des filles jeunes qui sont fraîchement diplômées des écoles d'ingénieurs, que ce soit du Maroc ou de l'Europe ou l'étranger. Si on n'est pas, on fait pas la veille technologique, si on n'a pas cet engouement au savoir, d'apprendre, que ce soit au niveau de la recherche, que ce soit au niveau donc de certification, d'être présent dans les événements scientifiques, dans les événements de l'écosystème, c'est très important. Comme ça, on est toujours à jour par rapport à ce qui se passe, parce que c'est des domaines qui avancent très rapidement, notamment l'IA d'aujourd'hui, c'est vraiment pas l'IA de l'année prochaine. Donc on doit être à jour, c'est un long chemin qui ne doit pas s'arrêter à un moment donné, et même pour les jeunes. Donc un diplômé de 2025, il faut qu'il soit à jour sur ce qui se passe en 2026-2027. Voilà.
Absolument. Alors, justement, j'imagine qu'il y a quelques années, quand on finissait ses études, on pensait que c'est bon, on était installé dans le monde professionnel et que ça serait une autoroute. Aujourd'hui, ce n'est plus du tout le cas.
Pour la tech, malheureusement, non.
D'ailleurs, tech, je pense plus aucun domaine, en fait. Moi, je me rappelle
avec l'IA qui arrive aujourd'hui.
Ouais, quand j'ai commencé dans les médias en 2004, Facebook naissait à peine. Et là, on est en 2026 et regardez comment le monde des médias a dû aussi s'adapter à l'arrivée des réseaux sociaux, au développement des différentes plateformes, à Meta, etc. Donc, 2004, quand j'ai démarré, 2026 aujourd'hui, c'est tout un monde.
Oui, bien sûr, bien sûr. Donc aujourd'hui, c'est tous les domaines qui avancent, et notamment avec l'arrivée de l'IA, ce qui est transverse, qui va toucher pratiquement tous les domaines, finance, médias, vraiment, vraiment tout, il va toucher nos vies. Donc on est obligé, chacun de sa part, d'accompagner ce changement et de rester à jour. Et puis, c'est vrai qu'il y a aussi, c'est un choix. On peut avoir des personnes qui préfèrent donc certaines zones de confort par rapport au développement professionnel. Mais à mon avis, j'invite tout le monde vraiment à avoir cette volonté de d'accompagner ce qui arrive dans le monde. Je voulais m'arrêter là par rapport à... Parce qu'aujourd'hui, on parle de la femme d'aujourd'hui, on doit parler aussi femme. Il peut y arriver des moments de la vie où on est obligé de faire des petites pauses, notamment la maternité. Il y a des changements que la femme peut subir dans la vie. On est passé par là également. Mais l'idée, c'est vraiment d'avoir cette résilience. Donc, il peut qu'on ait une année ou deux ans où on est un peu pris par la vie personnelle et par les changements.
Oui.
Mais l'idée, c'est vraiment de rebondir et de redémarrer ce qu'on faisait avant et de ne jamais se dire qu'on s'est perdu un peu des radars, c'est bon. Non, on peut reprendre. Et moi-même, je suis passée par l'expérience. Il faut juste avoir cette résilience, on reprend et ça va rentrer dans l'ordre. Voilà.
C'est magnifique. Merci beaucoup de souligner ça parce que... Et ça ramène vraiment, en fait, le développement, la réussite d'une femme dans la réalité, dans la vraie vie, en fait. C'est que quand on parle d'équilibre, vie privée, vie professionnelle, c'est pas 50-50. C'est une danse avec le temps. Et ça dépend des priorités du moment. Et même une femme comme vous, Tbarkallah, qui réussit très bien, qui est leader en matière d'intelligence artificielle et de technologie au Maroc, eh bien, il y a eu des moments où elle a dû lever le pied pour finalement se consacrer davantage à sa petite famille, à sa grossesse, à son bébé, à cette autre partie de sa vie.
Oui, absolument, absolument.
Et ça, il faut rappeler, en fait,
vous avez parlé d'équilibre, de balance. Ouais. Et donc, pour moi, effectivement, l'équilibre, ce n'est pas vraiment d'être à 50% pour chaque volet, mais c'est plutôt des périodes.
Oui, absolument.
C'est des périodes, c'est une balance qu'on doit faire. Il y a une période où je vais donner le maximum à mon développement de carrière. Il y a des périodes où je vais être plutôt consacrée sur la famille, que ce soit les enfants ou les parents. Ça dépend des circonstances. Et c'est là vraiment la réussite. Et c'est parmi les échanges qu'on a eus aussi avec beaucoup de VP, beaucoup de directrices à la Silicon Valley. Et ça encourage parce que vous pouvez voir des VIP qui ont passé par, aussi par des expériences. Et personnellement, j'ai en fait une belle expérience sur laquelle j'ai beaucoup appris. J'avais rencontré une VIP qui nous disait qu'elle était enceinte et au 8e ou 9e mois et on lui a proposé une promotion vers un poste de directrice. Et il nous a montré comment il a pris le challenge et comment ça s'est passé, l'importance du système de support, que ce soit la famille, le mari. Et j'ai appris par le rôle modèle, c'est important. J'ai vu un rôle modèle, j'ai appris la leçon. Et une fois aussi que j'ai eu mon premier bébé, juste après, j'ai eu une proposition de promotion au sein de ma boîte. Ah. Et donc, c'est là, ça m'est revenu en tête rapidement, ces rôles modèles, je les avais devant moi. Et puis voilà, j'ai pris aussi le challenge. Je me suis dit, comme elles sont arrivées, ils ont parcouru le chemin, je peux le faire moi-même. Ouais. Et c'est là l'importance aussi, nous, aujourd'hui, d'inspirer et de tirer en avant les jeunes femmes aujourd'hui.
Absolument, absolument. Comme quoi, finalement, l'histoire du rôle modèle, l'identification, se voir dans quelqu'un, voir quelqu'un qui a traversé la même chose que soi, c'est extrêmement important pour pouvoir avancer. Parce que la femme, finalement, se retrouve face à des challenges que, en réalité, les hommes n'ont pas. Un homme n'a pas besoin d'arrêter sa carrière pour une maternité, en fait. Un homme n'a pas besoin de faire le choix de « est-ce que je m'occupe de mes enfants ou est-ce que je prends une promotion ?»
Exactement. Mais nous, on est devant ces choix et il faut être bien entouré, je dis. Donc, il faut savoir solliciter son système de support et être précis dans ses besoins. Et alhamdoulilah, chacune de nous, je pense, est là. Et elle aura donc une personne, deux personnes dans sa vie, dans son cercle proche qui est là pour elle. Et donc voilà, c'est de savoir aussi bien exprimer ses besoins, solliciter certaines personnes pour vous aider, c'est très important. Et faire les bons choix à chaque fois. Donc si j'ai à donner de la priorité à ma famille, je le ferai. Si c'est le moment de relancer ma carrière, d'aller de l'avant, je vais déléguer des choses pour pouvoir me concentrer sur ma carrière.
Absolument, absolument. À travers justement cette année que vous allez bientôt clôturer, première expérience de Women in AI Morocco, est-ce que vous avez justement à travers vos échanges ressenti ce changement de mindset ou cette influence positive que ces échanges entre les femmes du monde de la tech au Maroc a pu avoir sur d'autres, c'est-à-dire se voir dans les histoires des autres?
Absolument, absolument. Donc, au-delà on fait beaucoup de formations techniques, on fait des mentorships, on fait des choses, mais au-delà de tout ça, on remarque toujours que les femmes veulent bien avoir des espaces d'échange. Que pour ça, ne serait-ce que pour ça. On échange entre nous, ils sont très inspirés quand ils, par exemple, nous voient, nous, le board de Women in AI, qui sont aussi des femmes, on est un mix, il y a des femmes entrepreneurs, il y a des femmes donc dans le secteur public, secteur privé, des enseignantes, des professeurs. Donc on est toutes à peu près, on travaille sur, donc on a un peu le même mindset, les mêmes valeurs, et ça inspire énormément la communauté. Donc, il voit comment ces femmes sont. Donc, il arrive à faire des choses. Et ben voilà, nous aussi, tu vois. Donc, c'est leurs yeux qui brillent à chaque fois qu'ils entendent ces partages et ces successful stories. C'est très important. Donc, on fait des fois des meet-up que pour ça. Des chit-chats, des meet-up pour effectivement inspirer les femmes d'une manière personnelle.
C'est de l'empowerment.
Oui, tout à fait.
Ouais. Comme quoi, finalement, les femmes sont demandeuses de ce genre de messages. Elles en ont besoin, elles se nourrissent de ça.
Oui, absolument. Les femmes ont besoin de rôles modèles, de femmes qui les inspirent. Et parce que après, vous comprenez, vous avez les mêmes challenges, les mêmes besoins.
Ouais.
Voilà.
Absolument, absolument. Et d'autant plus quand c'est des rôles modèles locales. Par exemple, vous, au début, vous avez rencontré des femmes aux États-Unis, mais qu'on le veuille ou non, au bout d'un moment, on se dit, mais ce n'est pas la même culture, ce n'est pas les mêmes contraintes, c'est pas, même si c'est une femme okay, qui va avoir un bébé, qui va devoir gérer une promotion, etc. Mais ce n'est pas, c'est pas ma culture. Alors que quand on ramène un rôle modèle qui émane de son propre pays, de sa propre culture, de son propre référentiel, c'est encore beaucoup plus puissant.
Oui, effectivement, c'est beaucoup plus parlant. Je vous donne un exemple pour illustrer. En fait, par exemple, j'ai beaucoup de femmes qui viennent vers moi. Hier, on était sur un événement d'ailleurs et j'ai eu encore une fois cette question de femmes. En fait, ils viennent me dire, c'est surtout les femmes qui sont en train de faire le PhD. Ils me disent, mais s'il vous plaît, comment vous avez fait de mener une thèse doctorale à fin et que vous étiez donc sur, vous travaillez, c'était en part-time et vous aviez un enfant et voilà, ils veulent des astuces. Après, c'est aussi un devoir de partager réellement les astuces qui ont marché pour nous.
Oui.
Par exemple, j'ai la fierté aussi de dire que pour finaliser ma thèse, j'ai dû partir pour des research visits pour 1-2 semaines et laisser mon bébé. J'ai dû aussi arrêter pendant 10 jours, je me rappelle bien, de vous, avant, c'était juste avant donc ma soutenance, un mois avant. C'est-à-dire que j'ai pris vraiment 10 jours, j'ai voyagé dans une autre ville du Maroc, le nord généralement, où ça me donne beaucoup d'inspiration. Et je me suis concentrée pour finaliser et mon rapport et ma présentation et toutes les idées clés que j'avais à présenter à mon jury de thèse. Donc c'est très important de donner ces astuces pratiques-là aux femmes qui pourront les débloquer dans leur...
Oui, ça veut dire que tu as le droit en tant que femme de prendre ce genre de décision. C'est ce que vous dites à ces femmes. C'est...
Exactement.
Voilà. Tu as le droit de t'enfermer, tu as le droit de partir, tu as le droit de laisser ton enfant. C'est un droit que tu as, en fait.
Exactement. Et après, vous allez équilibrer énormément. Après la thèse, j'ai été pratiquement là sur les 2-3 ans à bien donc, accompagner mon enfant en bas âge. Donc, c'est vraiment une balance qu'on mène à long terme, sur des périodes.
Absolument.
Mais pas essayer de faire le 50-50 comme vous l'avez bien mentionné.
Voilà. C'est pas possible, ça. Absolument. C'est ça, en fait, c'est quand on parle d'équilibre vie privée, vie professionnelle pour une femme, c'est en fait prendre des décisions en pleine conscience et ne pas culpabiliser. Lorsque je donne du temps à mon travail, je sais que je suis en train de donner du temps à mon travail parce que j'ai un objectif, mais je ne dois pas culpabiliser en tant que mère parce que j'ai laissé mes enfants. Lorsque je suis en train de m'occuper de mes enfants et que je ne néglige pas, mais je donne un peu moins d'énergie à mon travail, je le fais parce que cette période, mes enfants ont besoin de moi et j'ai peut-être aussi besoin de passer plus de temps avec mes enfants. Et mon travail a moins besoin de moi, moins besoin d'implication. Voilà. Et donc, c'est ça, c'est cette balance aussi dans laquelle... voilà, ben, en tout cas, Lalla Sofia, merci beaucoup pour cet échange. Je pense que...
Merci à vous.
Nos femmes d'aujourd'hui ont besoin d'entendre ces messages. Sofia Racham, merci infiniment d'avoir été ma femme d'aujourd'hui. Merci à toutes et à tous pour votre confiance. Femme d'aujourd'hui et sa version homme, c'est du lundi au vendredi sur les ondes de Média et à tout moment à la demande et en avant-première sur Média Podcast et les plateformes de podcast habituelles.